cobuzz.com.
Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour David Frey.
Bonjour.
Alors vous publiez chez Virgin Classics un deuxième album, le concerto pour piano de Bach, avec la Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen. Ces enregistrements sortent simultanément avec un film que Bruno Mont-Saint-Jean a tourné sur l'enregistrement. Mm-hmm. Alors, on pourra peut-être aborder tout de suite la grosse question, c'est enregistrer Bach, qui est pour beaucoup d'interprètes un peu le mur, le cap infranchissable, toucher aux saintes écritures tout de suite, à ce moment, c'est-à-dire assez tôt dans votre carrière, est-ce que c'est quelque chose qui vous a interrogé ou pour vous c'était une évidence ?
Disons que ça s'est construit progressivement et surtout, il faut quand même préciser que je ne m'attaque pas directement au Goldberg ou à... Mmh. Encore que d'ailleurs, moi je crois que ça serait possible également. Je crois que ce qui est important, c'est d'abord d'avoir une vraie familiarité avec une musique. Et là, quand je dis musique, c'est pas seulement avec la musique de Bach, mais aussi avec une œuvre en particulier, ou avec quelques œuvres en particulier. Donc, il est tout à fait possible de ne pas avoir d'affinité avec certaines œuvres de Bach et d'en avoir avec d'autres, ou avec certaines œuvres de Beethoven, et ainsi de suite. Donc, cette histoire de maturité, je crois que c'est surtout lié à la familiarité qu'on a avec une musique ou pas. C'est ça qui compte.
Donc finalement, c'est quand même assez propre au choix de l'œuvre que plus qu'au choix du compositeur.
Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que chaque œuvre a sa personnalité, ses propres ressorts, ses difficultés aussi d'interprétation, et qu'il appartient à l'interprète de savoir s'il est à même de les affronter et de les sublimer pour en donner une interprétation exigeante et fidèle.
Quelle valeur vous donnez à un enregistrement, à un disque, quelque chose qui est gravé dans la cire, même si on n'utilise plus trop l'expression, quelque chose qui reste pour vous, par rapport à des enregistrements passés, à toutes ces choses-là, par rapport à une mise en parallèle avec la musique vivante. Qu'est-ce que c'est pour vous un disque ?
Mon approche du disque, elle a changé. Lorsque j'avais fait mon premier enregistrement, mon premier CD, ce n'était pas encore chez Virgin Classics, c'était pour une maison canadienne. Et je me souviens que j'avais effectivement cette, disons-le d'ailleurs, cette inhibition en fait, de me dire « je vais laisser ça, entre guillemets, pour l'éternité ». Peut-être pour pas grand monde, mais en tout cas pour l'éternité, je ne sais pas. Et c'est vrai que ça avait orienté aussi mon travail. Je m'étais dit « il faut que tu fasses une synthèse de tout ce que tu peux donner dans cette œuvre-là. » Et je crois que ce n'était pas une bonne idée.
Est-ce que ce n'est pas un risque que j'ai demandé?
Oui, ce n'était pas du tout une bonne idée, je crois. En fait, ce qui me paraît le plus essentiel aujourd'hui, surtout avec la crise du disque qu'on connaît aujourd'hui, c'est finalement d'offrir à travers le disque la vision d'un moment. Et pas seulement d'un moment de sa vie, c'est-à-dire la vision, en parlant de moi, d'un jeune homme de 27 ans, par exemple, mais aussi la vision d'un jour, d'une heure précise, j'ai envie de dire. C'est regarder ce côté unique et ne pas essayer de lui donner l'aspect d'un marbre qui doit synthétiser toutes les avancées de ces dernières années, futures, à venir, passées, etc.
Comme c'est un concert, en fait, finalement, aussi.
Oui, voilà, exactement. Pas exactement comme un concert, parce que c'est pas la même chose, et que le disque est un produit, il faut jamais perdre de vue ça, qui obéit à des règles qui sont différentes aussi. À savoir que, par exemple, on peut tout à fait faire quelque chose avec succès dans une salle de concert, et que ça ne marche pas pour les micros, par exemple. C'est une expérience qui est assez relativement fréquente. Ça peut arriver, en tout cas.
Comment s'est passé le travail avec l'orchestre que vous aviez en face de vous ? Comment ça s'est passé ? Le début, la progression, l'enregistrement, etc. Mm-hmm. Parce qu'on voit en partie, évidemment, bien dans le film,
voilà.
Mais on voit qu'une partie, j'allais dire.
Ah oui, c'est Bruno Mont-Saint-Jean a filmé vraiment les 3 jours dans leur intégralité. Donc effectivement, ce sont vraiment des morceaux choisis. Non, ça s'est très bien passé. C'est moi qui ai choisi cet orchestre, qui ai voulu travailler avec cet orchestre, puisque je les connaissais depuis déjà maintenant 2 ans au moins, je pense. Et on avait une expérience en concert qui m'avait beaucoup plu. Après, enregistrer, c'est autre chose. Il a fallu se mettre d'accord d'une manière peut-être plus précise et avec une exigence plus pointue, ce qui forcément donne lieu à des discussions. Hein, et il y en a eu. Je crois qu'elles ont été bénéfiques pour l'enregistrement et qu'elles ont...
C'est sur des points précis, c'était...
Sur le style aussi, tout simplement. C'est-à-dire que quand vous jouez Bach avec piano, vous ne pouvez pas le jouer de la même manière quand vous jouez avec clavecin, par exemple. Donc, et puis des articulations, des couleurs. Il est vrai que moi, je voulais un peu coordonner, disons, l'ensemble pour lui donner une cohérence. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et je crois qu'on a réussi à travailler en bonne intelligence.
Et là, justement, le match soliste-orchestre, en plus, qui est assez propre, enfin, qui, dans cette œuvre-là, dans ces œuvres-là, est assez, assez important. Comment vous l'avez abordé? Est-ce que vous avez des certitudes par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues à vous, finalement, durant l'enregistrement, pendant la préparation?
Comment oui, ça toujours. Il faut toujours laisser les choses venir à soi aussi, parfois. Il faut évidemment arriver avec un plan de travail, je dirais, suffisamment défini et clair. Mais il faut aussi être ouvert, évidemment, déjà à ce que l'orchestre peut vous proposer. Et puis à ce qui peut arriver, tout simplement, de ma part, de la part de l'orchestre, de la part de plein de choses, et aussi de l'air ambiant, j'allais dire, de l'inspiration. Donc c'est un savant mélange de préparation, de préméditation, et aussi de disponibilité totale dans l'instant.
Voilà. Et par rapport à l'œuvre elle-même?
Oui, alors l'histoire du combat,
soliste, c'est peut-être un peu violent, mais...
comme on veut. Entre le soliste et l'orchestre, il me semble ici pas tellement à sa place. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que Bach, là, on le sait, avait étudié, quand il était à Weimar, les concertos italiens, qui étaient des concerti grossi, comme ceux de Corelli, par exemple, qui ne sont pas des concertos avec soliste. Hein, ce sont des concertos juste avec un orchestre, tout simplement. Et Bach a fait une chose novatrice, finalement, c'est que le clavecin, qui d'habitude accompagne l'orchestre et fait le continuo, la basse continue, si vous préférez, là, il lui donne tout d'un coup une occasion de prendre son indépendance et de parler de sa voix propre. Et donc, de ce point de vue-là, les concertos de Bach sont aussi très intéressants pour comprendre la transition du concerto baroque italien sans soliste au concerto pour instrument soliste et pour piano plus tard qu'on a connu. Mais en ça, et c'est pour ça que ces concertos sont à mon avis particulièrement réussis aussi, on a aussi une grande symbiose entre l'instrument soliste et l'orchestre, à savoir que l'instrument soliste se joint à l'orchestre également lorsque l'orchestre a des tutis. Et du coup, ça donne à ces œuvres une grande homogénéité entre les solos du clavier et les passages où l'orchestre a un rôle plus important.
De Bach et même quand on parle de ses concertos et en plus il y a Bruno Mont-Saint-Jean, il y a toujours le nom de Glenn Gould qui traîne quelque part dans l'air. Est-ce que ouais. c'est une épée de Damoclès? Au contraire, c'est quelque chose, ça booste, ça motive. Comment? Et en plus, bon, il y a le fait qu'on enregistre en plus. Oui. Et on sait le rapport que Gould avait avec l'enregistrement. Oui. Donc oui, comment tout ça est arrivé pour
ce rapport à l'enregistrement qui n'est pas le même que celui que moi j'entretiens avec les disques, comme j'ai pu le. Disons que non, moi j'ai pas, peut-être c'est une sorte d'inconscience, mais non, j'ai pas eu d'inhibition, tout simplement parce que de la même manière quand j'avais enregistré Bach avant une partita, une suite française, j'avais pas pensé à Gould, tout simplement parce que Gould n'est pas sans arrêt dans ma tête quand je joue du Bach, heureusement pour moi, et que je crois qu'il est, même si Gould est un musicien génial et marquant, je crois qu'il est tout à fait possible de trouver d'autres voies. Et comme on sait, tous les grands chefs-d'œuvre proposent une infinité de facettes que aucun musicien, aussi génial soit-il comme Gould, ne peut explorer en une seule fois. Donc non, je crois que j'avais une esthétique en plus totalement différente. Et non, à vrai dire, j'ai pas beaucoup pensé. Je crois pas non plus que Bruno y ait pensé beaucoup, parce que il sait aussi à quel point Gould était unique et que tout ça n'a pas de... Voilà, et puis il a fait beaucoup d'autres choses aussi. Et voilà.
Quel rapport vous avez justement quand vous abordez un enregistrement avec les enregistrements du passé, justement les enregistrements qui peut-être vous ont accompagné dans votre formation, etc. Et comment est-ce qu'on s'en détache facilement? Est-ce qu'on a des tics? Comment vous abordez ça?
Moi, déjà, j'écoute pas énormément de piano. Quand j'en écoute, ce sont des musiciens très ciblés. En général, c'est Wilhelm Kempf, la plupart du temps. Voilà. Parce que c'est le musicien qui m'inspire, le pianiste qui m'inspire le plus, sans pour autant m'influencer. Enfin, c'est un rapport un peu étrange. C'est comme s'il il m'ouvrait les oreilles, quoi, mais sans que j'ai une quelconque velléité d'imitation. Les enregistrements du passé, je crois qu'il est bon de les écouter, mais il est bon aussi de garder des distances. Il est bon de savoir ce que des grands artistes ont à nous dire sur une œuvre, quelle qu'elle soit. Après, je crois qu'au moment où on doit travailler une œuvre, il faut essayer de les oublier, par contre. Et d'ailleurs, il faut essayer de tout oublier, d'avoir évident, seulement ça. La musique. C'est évident.
C'est un vrai travail.
Oui, c'est un vrai travail. Disons qu'il faut essayer d'aborder les œuvres avec la plus grande fraîcheur possible et ne pas considérer comme acquis des choses qui sont répétées depuis des années et qui font partie d'une certaine tradition et dont on peut tout à fait contester la validité, par exemple. Il y a des choses qui se répètent sans arrêt dans certaines œuvres et quand on regarde la partition, ce ne sont pas forcément des choses... évidente ou nécessaire. Il est tout à fait possible de trouver d'autres voies. Donc il faut avoir l'honnêteté et prendre le risque de dire eh ben, je pars de zéro et puis voyons où j'arrive. Et si j'arrive pour certaines choses au même endroit que d'autres grands musiciens du passé, ok, très bien. Il ne faut pas non plus chercher à s'en éloigner systématiquement. Mais il faut faire ce travail de partir d'une page vierge, ou en tout cas du texte et seulement du texte.
Le fait que l'enregistrement a été filmé, est-ce que ça a eu un impact sur vous de voir? Alors on voit effectivement quelques caméras discrètement placées, mais est-ce que consciemment, quand même, dans un coin de votre tête, le fait de savoir qu'il y aura une trace, des images de ça, ça a eu un impact quelconque sur vous ou pas du tout? Vous avez vraiment réussi à faire complètement abstraction
de... Ce que ça a changé, je crois, c'est que du coup, j'étais obligé par rapport à l'orchestre de verbaliser d'une manière plus claire. J'ai dû penser, même si j'ai comme très vite oublié les caméras, j'ai dû penser que ce travail-là allait être filmé et montré à des spectateurs, pas toujours musiciens. Donc il a fallu parfois que j'explique d'une manière un peu plus poussée ou plus imagée certains concepts que l'orchestre aurait peut-être compris plus rapidement. Mais pour les besoins du film, j'avais une certaine volonté de clarté et d'exhaustivité par rapport à ce que je voulais dire de ces œuvres.
Donc, à plusieurs reprises, vous parlez de... Alors, qu'est-ce que vous leur parlez de chanter? Quand vous prenez un passage de la partition et vous dites si c'était une voix, vous respirez profondément. Vous avez un rapport avec, j'allais dire, un pianiste. C'est presque plus, vous jouez presque avec plus votre bouche qu'avec vos mains. Est-ce que le chant, c'est quelque chose qui...
Oui.
Comment vous le...
Le chant, pour moi, c'est l'instrument, le maître étalon, je dirais. Parce que le chant, c'est l'instrument qui n'appartient à aucune époque. Instrument qui n'a pas changé, qui est lié à l'humain, qui est organique en plus, qui est en nous. Tout le monde peut chanter. Je veux dire, moi, je chante très très mal, mais disons que même en chantant très mal, j'ai quand même la sensation physique de ce que c'est que essayer de parler, de chanter une phrase avec ma voix. Vous voyez, cette expérience-là est fondatrice pour un musicien, à mon avis, parce que quand on a un médium aussi imposant et aussi indirect qu'un piano avec les marteaux, les cordes, etc. en face de soi, il est nécessaire d'essayer de l'intégrer à soi le plus profondément possible.
Vous pensez finalement que vous avez été peut-être plus influencé par des chanteurs, par des pianistes?
Oui, très clairement. Et les pianistes qui m'ont influencé, Wilhelm Kempf, pour moi, c'est plus un chanteur qu'un pianiste, en un sens. C'est le piano, apparemment, l'intéressait assez peu. Ce qui l'intéressait, c'était la musique, c'était la respiration, c'était le souffle.
À un moment, vous parlez de... comment le grand public parfois perçoit certains airs via le cinéma. Vous citez Woody Allen, je ne sais plus quel passage, effectivement. Et est-ce que vous visualisez, vous donnez énormément d'images à la musique quand vous jouez, c'est quelque chose, ça dépend des œuvres, est-ce que ça dépend des instants, est-ce que vous...
Ce que j'essaie de donner, ce sont des expressions, tout simplement. Et les expressions,
elles peuvent être... Est-ce que vous personnellement...
Oui, personnellement, ce sont des expressions, mais ça peut être une expression d'un visage, ça peut être l'expression d'un tableau, ça peut être l'expression d'une voix. Donc c'est vraiment l'expression dans toute sa polyvalence, quoi. C'est-à-dire, je ne me refuse aucun moyen... d'arriver à une expression particulière. Si ce moyen-là va être cinématographique, pictural, littéraire ou philosophique, je vais effectivement l'utiliser. Même si, sur le papier, le philosophe ou le peintre n'ont pas grand-chose à voir avec le compositeur. Ce qui m'intéresse, c'est un certain type d'expression aussi. Et si, pour essayer de l'attraper le plus fidèlement possible, je dois appeler ce genre de référence, je le fais, effectivement.
Diriger un orchestre pendant cet enregistrement, la direction, c'est quelque chose qui vous... Ça représente quelle part dans votre réflexion de...
Disons que la direction, pour moi, c'est j'ai pas l'intention, je sais pas ce qui arrivera plus tard, mais peut-être qu'on me la ressortira si un jour j'ai des velléités de devenir chef d'orchestre.
On va dire.
Mais disons que, a priori, je peux vous dire aujourd'hui que j'ai pas de velléité ou de volonté donc de
devenir grands pianistes chef qui sont devenus chefs,
non, c'est pas,
ça vous
non.
intrigue, ça vous regardez ça de quelle manière?
Non, je les admire. Ouais. Je les admire. S'ils font les deux avec talent, ce qui arrive, je suis extrêmement admiratif. Mais disons que ce qui se passe, c'est que j'ai envie d'être chef d'orchestre, mais à mon piano. Donc j'essaye d'être mon propre chef d'orchestre. Et là, dans ce cas précis, le chef d'orchestre aussi de ses quatre pupitres de cordes. Mais c'était une approche aussi chambriste, cette approche-là. Je ne prétendais pas être le maestro assoluto sur son podium. C'était pas ni le lieu, ni le répertoire, ni mon envie d'ailleurs.
Comment justement dans cette part d'échange, enfin de direction, mais aussi avant tout quand même d'échange avec des musiciens dans un contexte de gens qu'on rencontre sur une période courte, à un moment donné, etc. Est-ce qu'il y a un aspect, une part de psychologie, une part de là-dedans
forte, et... très forte d'affect, de diplomatie aussi, chose qui n'est pas forcément d'ailleurs mon fort. Moi, je suis quelqu'un de très direct. Je pense que ça se voit aussi dans le film. Pourquoi direct, outre le fait que ce soit mon caractère, mais aussi parce que pour moi, la musique requiert cette proximité, cette familiarité, cette gourmandise aussi, en un sens. Donc, je ne me retiens pas de m'exprimer et mais aussi d'écouter. Ça, c'est très important. Il faut savoir s'exprimer, mais il faut aussi savoir laisser les autres s'exprimer. Là, c'est vrai que pour cet enregistrement, j'étais encore une fois le coordinateur, donc et c'était moi qui devais donner un peu l'impulsion, le style, la couleur générale.
Qu'est-ce que cet enregistrement vous a appris sur vous-même par rapport à quand vous le réécoutez, quand vous...
C'est pas mal de choses, en fait. Pas mal de choses par rapport au travail que j'ai fait avec l'orchestre aussi. Je me suis rendu compte de ce que j'aurais pu faire mieux, de ce que j'aurais pu leur dire mieux, surtout en général, sur ma manière de communiquer avec d'autres musiciens, qui n'est pas toujours, je le concède, et qui n'est pas toujours très diplomatique. C'est vrai, et donc cette gourmandise, cette avidité, cette exubérance parfois. Tout ça peut être parfois mal compris ou simplement heurter certaines sensibilités. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis aussi rendu compte. Il n'empêche que, in fine, le résultat, je veux dire, doit rester le même. Mais le moyen d'y arriver peut parfois être différent. Ça, c'est quelque chose qu'avec le temps, sûrement, sur lequel j'évoluerai. Thank you.
Vous avez déjà des envies d'enregistrement futur, d'œuvres?
J'ai déjà un projet là, qui est relativement défini, d'un récital Schubert, oui, effectivement. Mmh.
Quelle œuvre en particulier?
Avec quelques impromptus, éléments musicaux et l'allegretto en do mineur, je pense.
Vous avez croisé le chemin de différentes personnalités du monde de la musique, comme on dit. Alors, juste deux au hasard, Eschenbach.
Oui.
Qu'est-ce que vous gardez rétrospectivement de
Eschenbach? C'est lui qui m'a permis de mettre en application et de trouver aussi en partie la connexion avec le chant. C'est-à-dire qu'on pouvait m'en parler avant, mais bon, c'est pas toujours facile de savoir comment simplement le passer de la théorie à la pratique, je dirais. Donc on vous dit joue comme un chanteur, inspire-toi des chanteurs, très bien, mais enfin c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Lui, il m'a aidé là-dessus parce qu'il est aussi chef d'orchestre, justement, parce qu'il travaille beaucoup avec des chanteurs et qu'il a ce type-là, ce type de phrasé, je dirais. Donc il m'a beaucoup aidé pour ça, oui.
Et à Boulez, que vous avez rencontré, vous avez enregistré un 6 piano pour
les notations,
dans votre, voilà, sur votre précédent album.
Oui.
Cette rencontre-là, qu'est-ce que...
Ça, c'est une rencontre très brève, mais ce qui a été surtout extrêmement... C'était une rencontre très forte, évidemment, mais ce qui a été fondateur, c'était la rencontre avec sa musique. Hein, parce que j'avais cette volonté d'enregistrer ces deux œuvres-là en miroir avec deux œuvres de Bach. Et c'est une musique d'une force et d'une... Et un langage qui me parle énormément. Et c'est vrai que la personnalité, je l'ai rencontré quoi, trois quarts d'heure. Hein, donc il m'a fait travailler, il m'a écouté avec beaucoup de générosité. Mais c'est une personnalité, un compositeur, un chef qui m'a beaucoup inspiré et que j'admire énormément. Donc au-delà de cette rencontre.
Enregistrer des contemporains, c'est quelque chose d'important pour vous, pouvoir avoir une communication avec un compositeur, par exemple? C'est quelque chose dans votre rôle d'interprète? Est-ce que c'est...
Avoir l'information à la source, c'est quelque chose d'irremplaçable et d'inespéré, parfois. Donc ça, c'est effectivement formidable. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut jouer la musique contemporaine qu'on aime, qu'on a vraiment envie de défendre, ne pas la jouer parce qu'elle est contemporaine. Quand je joue du Boulez, je joue une musique pure. Le fait que le compositeur soit encore en vie, finalement, est secondaire. Ce qui est important, c'est que c'est une musique qui me paraît magistrale et très importante, aussi par rapport au répertoire de mon instrument au XXe siècle. Et c'est pour ça que j'ai voulu la défendre. Et là, tout simplement la faire mieux connaître, la faire écouter autrement aussi, peut-être. Et voilà, mais il y avait une volonté aussi de briser les chapelles, c'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas enfermer la musique contemporaine seulement avec des interprètes spécialisés ou des séries spécialisées. Je crois qu'il est aussi bon de la remettre en situation, en contexte. Aucune musique ne s'est faite toute seule et sans aucune influence, ou rien ne vient de nulle part. Donc il est toujours intéressant aussi de faire des connexions et du coup que le public se rende compte que cette musique non seulement est actuelle, mais qu'elle est aussi ancrée dans une histoire et dans des influences parfois.
Pas sur votre piano, est-ce que vous écoutez beaucoup de musique ou vous avez plutôt tendance à autre que celle qui vous avez envie de travailler ou vous avez envie d'enregistrer ou de jouer?
Oui, j'en écoute, mais finalement j'ai de moins en moins de temps pour l'écouter, ce qui est finalement c'est dommage. Ce que j'essaye de faire, c'est d'aller au concert parce que j'aime la musique vivante plus que la musique en boîte. Donc oui, j'essaye de me déplacer au concert quand je le peux, mais en ce moment par exemple où je voyage beaucoup, c'est plus compliqué.
Quels sont les deux, trois derniers concerts qui vous ont marqué, par exemple?
C'était des concerts que je suis allé voir au Festival de Salzbourg cet été. Particulièrement beau, un requiem allemand de Brahms et un récital de Paulini aussi. J'en oublie sûrement. C'est ça qui me vient à l'esprit.
Des musiques hors de l'univers classique vous en écoutez, du jazz, la musique du monde, du rock, je ne sais pas,
oui,
d'autres choses.
J'aime beaucoup, sans le connaître bien, je le concède, mais j'aime beaucoup le vieux jazz, Django Reinhardt, ce genre de choses. J'aime aussi Michael Jackson, des choses comme ça, ça peut m'arriver. Mmh. Ou mais disons que globalement, c'est vrai que j'écoute plutôt du classique, mais je ne méprise pas les autres formes de musique. Mmh. Et il y en a certaines donc, qui m'attirent plus que d'autres, dont celle-ci.
Vous avez parlé d'un album Schubert, d'autres envies dans les années à venir, que ce soit tant au disque que sur scène.
Disons que Bach restera un jalon essentiel, donc je suppose que moi en tout cas j'en ai besoin. J'espère que quelqu'un en a besoin aussi, mais donc Bach reviendra vraisemblablement. Schubert aussi, tout ce répertoire qui finalement va remplir ma vie, le répertoire autrichien ou allemand, Mozart, Schumann, Schoenberg. Voilà.
Merci David Franck.
Merci.
Rencontre par Marc Zisman.